dans un temps imposé. Nous partons du présent et nous évoluons vers l'avenir.
Un projet que l'on croyait encore impossible et qui maintenant devient chaque jour un peu plus réalisé.
Espèce en voie d'évolution.
Je me sentais traqué, observé, épié.
S'il n'y avait pas eu Internet, ça aurait été très différent. Ça aurait resté quelque chose de contrôlable.
On peut dire aux robots peut-être des choses qu'on ne dirait pas à d'autres, parce que c'est quelque part une machine qui est impersonnelle.
Je pense que pour moi, Internet est venu trop vite, trop accessible.
C'est la base de toute la démarche, c'est de considérer qu'un jour, techniquement, on arrivera à soigner la mort.
Les innovations sont-elles en train de radicalement changer l'espèce humaine? En 10 épisodes, Espèce en voie d'évolution revient explorer notre futur à travers les témoignages du présent. Une galerie de portraits enrichie par la parole d'experts autour des espoirs mais aussi des dérives liées aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, on rencontre un couple, Yael et Nicolas. Tous deux ont développé la même addiction durant leur plus jeune âge, avant même de se connaître. Au micro également le psychiatre et addictologue Jacques Besson et le philosophe et écrivain Tristan Garcia. Tout de suite et pendant une heure, on explore notre espèce en voie d'évolution. Soyez les bienvenus.
Espèce en voie d'évolution. Couleur 3.
Tout a commencé quand un copain d'école au fait, m'a expliqué que dans la bibliothèque de son père, qui était un grand fan du Real Madrid, il y avait des matchs du Classico Real Madrid d'FC Barcelone qu'il avait enregistrés à la télévision sur des vieilles cassettes VHS. Et au fait, il m'a dit qu'en voulant regarder un de ces matchs, il a tout d'un coup découvert que c'était pas un match de foot, mais c'était un film pornographique. Puis il est venu le lendemain à l'école et il m'a dit ça, il m'a dit il faut absolument que tu viennes voir ça. Et du coup, j'avais autour des 10 ans à ce moment-là quand j'ai vu au fait mon premier film pornographique, qui était encore rien à voir avec la pornographie qu'on peut voir de nos jours, mais quand même assez explicite. Et quand j'ai vu ces premières images, ça a eu chez moi un effet assez... étrange, je dirais.
Nicolas, ancien addict à la pornographie.
À la fois, j'ai été capté complètement par ces images, parce que de voir de la nudité, de voir des choses comme ça, c'était quelque chose que j'avais jamais vu de manière si explicite. Et en même temps, ça a eu l'autre effet où finalement, ça m'a un peu repoussé, presque dégoûté, je dirais. Et j'étais jeune pour voir ces images-là à cette époque. De fil en aiguille, au fait, c'est quelque chose qui m'est resté dans un coin de la tête. Et puis au fil des mois, et comme ça, j'ai continué à y penser. Et un jour, au fait, bah voilà, on a commencé à avoir Internet qui arrivait à la maison. J'ai aussi commencé à découvrir un peu plus ces moyens-là. Et je suis tombé, au fait, sur des sites où il y avait des images à caractère pornographique. Enfin, je dirais plutôt érotique à l'époque. Et aussi sur des chaînes de télévision qui, à partir d'une certaine heure, au fait, montraient des films érotiques. Et donc, j'ai commencé à regarder ça un peu innocemment. Et de fil en aiguille, au fait, c'est quelque chose qui me demandait de plus en plus.
Comment définit-on une addiction? Jacques Besson, psychiatre et addictologue.
Grâce aux neurosciences, on a pu montrer que les addictions sont toutes caractérisées par un tronc commun. C'est la perte du contrôle d'une consommation, soit de substance, soit de comportement, malgré les conséquences négatives. Donc la perte de contrôle, malgré les conséquences négatives. Avec ça, vous avez le tronc commun pour toutes les addictions, que ce soit la cocaïne, les jeux vidéo, l'alcool, etc.
J'ai rapidement en fait remarqué que c'était quelque chose qui me posait certains problèmes parce que je regardais plus que ce que j'aurais imaginé en fait.
Nicolas, ancien addict à la pornographie.
Enfin voilà, à un moment donné, une fois ma maman, elle m'a pris à part, puis elle m'a dit « Si jamais, je sais pas ce que tu regardes avec tes copains ou comme ça, mais tu sauras que la pornographie, c'est pas quelque chose qu'on trouve bien. » Et moi, j'ai pas vraiment compris ce que ça pouvait vouloir dire, mais en fait, j'ai eu... arrière-pensée que finalement c'était pas quelque chose de bien, mais sans savoir vraiment pourquoi. Et donc chaque fois que je regardais ça, ben, j'avais en même temps un sentiment de plaisir, enfin quelque chose de où on a, voilà, ça nous procure de la satisfaction, de l'excitation, et en même temps aussi cet arrière-goût un peu amer où finalement c'était pas quelque chose qui me laissait tranquille, finalement où j'avais l'impression de faire quelque chose qui était pas tout à fait bien. Et ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Ce que je me rappelle à l'âge de 15 ans plus ou moins, c'est que j'ai commencé mon apprentissage, travaillais toute la journée sur l'ordinateur, j'avais un ordinateur dans ma chambre, j'avais au fait accès à internet toute la journée, et je me rappelle bien qu'à ce moment-là, au fait, il y avait des semaines où je pensais à ça, enfin je regardais ça tous les jours, vraiment, puis des fois ben, une quête qui pouvait prendre plusieurs heures par jour, et donc je me rendais compte que ça avait un ça avait changé au fait mon orientation de vie. C'était devenu quelque chose de super important pour moi et presque tout tournait là autour au fait.
En tout, l'indépendance a duré 10 ans.
Yaël, ancienne addict à la pornographie.
Avec, comme Nicolas, une période de... Ouais, où j'ai vécu un peu un temps de... Comment on dit, un temps de trêve. Et puis là, une rechute beaucoup plus profonde parce que j'avais de nouveau besoin de voir des choses toujours plus violentes, toujours plus bestiales. Et puis le contenu devenait aussi toujours plus facile à s'approprier. Et puis à un moment, on s'est rencontrés avec Nico. Et là, je me disais, mais c'est juste pas possible de vivre une relation avec lui. Et puis à côté de consommer un contenu comme celui-là, de vivre une dépendance comme celle-là, parce que j'étais vraiment pas à l'aise avec ce que je vivais. Je me sentais sale, je me sentais honteuse, je n'osais pas le partager à qui que ce soit.
Comment repère-t-on un trouble addictif ? Jacques Besson.
Eh bien, je crois que dès qu'on a ce sentiment d'avoir perdu le contrôle, d'avoir des efforts infructueux pour limiter la consommation, voire arrêter, mais en tout cas déjà pour limiter, qu'on commence à avoir des symptômes désagréables quand on quitte le comportement, par exemple de l'anxiété, de la nervosité, de l'irritabilité pour les jeux vidéo, par exemple. Mais évidemment, des symptômes de manque beaucoup plus graves, on peut aller jusqu'au délirium tremens dans l'alcoolisme ou le manque d'héroïne qui va vous faire rouler par terre. Mais entre deux, il y a un continuum, évidemment, mais ce sentiment que vous avez un manque qui vous fait souffrir avec des symptômes, c'est vraiment un système d'alerte qui montre que votre système biologique cérébral est devenu accoutumé et que il y a des conséquences biologiques si vous cessez la consommation, que ce soit de la substance ou que ce soit du comportement.
J'avais pas l'impression que c'était la réalité ce qui se passait, parce que on voit des films, on sait que dans les films il se passe des choses qui sont pas vraies.
Nicolas, ancien addict à la pornographie.
Mais en même temps, ça m'imprégnait quand même. C'est-à-dire que les choses que je voyais, elles avaient une influence sur moi. Et on s'en est pleinement rendu compte quand, au fait, on a commencé avec elle à vivre une intimité sexuelle. C'est qu'au fait, on a été éduqués par la pornographie. Les codes de la pornographie, on pensait qu'on devait les reproduire pour trouver du plaisir. Et finalement, c'est là où on s'est rendu compte qu'on se trompait complètement de voie. Et que la pornographie, c'était pas juste, on le savait, mais qu'en même temps, elle nous avait complètement influencés quand même. Donc il y a cette opposition entre ce qu'on sait et ce qu'on intègre malgré tout.
Ça fait partie de cet accès de masse, n'est-ce pas, à des contenus qui stimulent le cerveau de la récompense à tout âge. Et c'est vrai qu'un enfant de 12 ans qui découvre la sexualité à travers la pornographie, c'est catastrophique, on est bien d'accord.
Jacques Besson.
Simplement, on peut pas l'empêcher. Donc, du coup, je pense que là, c'est la responsabilité des adultes de faire une éducation sexuelle qui tient la route déjà très jeune. Et il faut arrêter de parler des abeilles qu'ils ont 14 ans, j'entends. Non, il faut commencer plus tôt sur ce que c'est que l'amour. Et il faut bien faire la différence entre la sexualité, la tendresse, l'amour. Il y a beaucoup de choses à apprendre à dire, finalement, et que nous ne savons pas trop dans notre éducation plus ou moins protestante ici, dans nos latitudes. Il y a une énorme pudeur et on laisse un petit peu les enfants apprendre la sexualité avec les copains dans la cour d'école. C'est pas une bonne idée parce qu'évidemment, ils vont tout de suite aller au fond du panier. Donc, oui, une meilleure éducation sexuelle, plus tôt, plus précise et pour disqualifier finalement les parce qu'il y a aussi des ordures sur Internet, appelons les choses par leur nom.
Ce qui m'intéresse simplement dans l'addiction ou dans l'intensité, c'est que c'est une promesse qui, à mon avis, n'est pas tenable. Elle finit toujours par être déçue.
Tristan Garcia, philosophe et écrivain.
C'est-à-dire que si vous attachez le sens de votre existence à l'augmentation tendancielle de l'intensité de toutes vos expériences et que c'est le seul sens que vous donnez à votre vie, vous ne pourrez pas soutenir ce sens, il va s'effondrer et donc la promesse ne peut pas être tenue. Donc ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment une promesse ne peut pas être tenue, ce qui à mon sens est un argument logique, mais de ne pas le condamner moralement. Donc ça me gênerait toujours d'avoir un discours, vous voyez par exemple, ouais, il y a la pornographie partout, maintenant les jeunes ne savent plus comment avoir une sexualité saine parce qu'ils ont sous les yeux des modèles de performance ou de tenir ce discours, vous voyez, sur des corps bodybuildés, stéroïdés ou sur le culte de la performance sportive. J'ai pas envie d'avoir un discours moralisateur, j'ai pas envie de condamner ça moralement. Je pense pas que ce soit mauvais en soi, je pense pas qu'il y a de mal en soi de ce point de vue là. Je pense simplement que c'est le symptôme de promesses sociales qui sont liées à la modernité et que ces promesses ne sont pas tenables et se retournent contre elles-mêmes. Pour des raisons que j'essaie d'expliquer, qui sont à la fois simples et compliquées, qui est que c'est la logique du junkie qui a vu le premier, je sais pas, de Quincé par exemple, quand dans son texte sur l'opium traduit par Baudelaire, qui est que le propre d'une addiction, c'est que vous vous attachez à l'intensité d'une expérience, quelle qu'elle soit, et que cette intensité, vous ne pouvez soutenir une intensité égale qu'à condition de l'augmenter. C'est le propre de toute addiction, c'est que pour maintenir une sensation équivalente, vous devez augmenter la dose. Pas d'autre voie. Vous savez que vous êtes dans un processus d'addiction quand vous êtes renvoyé à ce phénomène. Il ne suffit pas d'augmenter, à un moment, il faut augmenter votre augmentation. C'est une augmentation hyperbolique. Parce qu'en fait, votre esprit rétablit le fait que vous allez, par exemple, ajouter une dose chaque jour. Donc, une fois d'après, il faut en ajouter deux, il faut en ajouter encore plus. Donc, c'est vraiment hyperbolique. Et le propre de ces augmentations hyperboliques, à mon sens, c'est qu'elles sont insoutenables. Et comme c'est insoutenable, ça produit, à mon avis, toujours une déception, qui est que la promesse d'intensité finit toujours par produire une désintensification, c'est-à-dire de la dépression, du burn-out ou un effondrement. C'est collapse, burn-out ou dépression. Et ce qui m'embête, c'est qu'il y a une part, je pense, de la société occidentale qui s'est greffée sur cette promesse d'intensité parce que ça permettait de vendre des choses, tout simplement, ou de vendre des expériences. Et je pense que cette promesse-là, voilà, je pense qu'elle n'est pas tenable.
Bah moi, les premiers que j'ai trouvés, en fait, c'était plus ou moins au moment des cassettes VHS, mais c'était aussi lors du ramassage de journaux où on a trouvé des revues qu'on avait réussi à récupérer à gauche et à droite quand on faisait le ramassage des journaux dans notre village.
Nicolas, ancien addict à la pornographie.
Après, il y a eu l'arrivée d'Internet où c'est devenu... Enfin voilà, moi je me rappelle ma page d'accueil où il y avait une section érotique, je veux dire, concrètement. Puis c'était un site tout à fait standard. Hein. La pornographie ou l'érotisme était très présent sur Internet et puis sur des sites tout publics. Et donc ça a été pour moi déjà une première accroche. Puis après, ben voilà, je veux dire, après j'ai compris qu'il y avait d'autres sites qui étaient nettement plus pratique et qui fournissait des nouvelles images beaucoup plus régulièrement et donc ça a amené en fait une accélération parce que finalement au lieu de regarder une deux images au début c'était un lot de 10 images, bah là tout d'un coup il y avait des milliers d'images de vidéos tous les jours qui sortaient et puis bah c'est une quête, enfin voilà, on ne s'arrête plus. Donc c'est vrai que je pense que s'il n'y avait pas eu Internet, ça aurait été très différent, ça serait resté quelque chose de contrôlable très probablement, mais l'arrivée d'Internet a accéléré. Au fait, maintenant, sur Internet, on peut voir des centaines, des milliers de femmes en une heure. Et ça, c'est complètement nouveau. À la fois, j'aime Internet, je trouve que c'est juste une technologie fantastique, on peut y faire des choses incroyables, mais en même temps, ça nécessite un contrôle. Nous, on aime bien dire que finalement... aujourd'hui, pour gagner en liberté, on a besoin de limiter nos possibilités. Puis je crois qu'on a à apprendre à contrôler finalement tous ces moyens qui sont illimités. On aime bien dire aussi qu'Internet, finalement, avoir Internet à illimité à la maison, c'est comme si on avait des armes, de la drogue, des revues pornographiques, de l'alcool sur notre table du salon. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer pour tout le monde. D'avoir autant de, si on peut dire ça, de tentations à portée de main, c'est pas évident. Et du coup, nous, on a l'impression qu'il y a besoin d'apprendre à contrôler ces choses-là parce que sinon, on risque de se faire complètement absorber.
On retrouve Yaël et Nicolas demain pour un deuxième et dernier épisode consacré à l'addiction à la pornographie. C'était Espèce en voie d'évolution, imagination et conception, Loïc Delacour, Jérôme Galichet et Stéphane Matteo, réalisation, Valère Veilla. Vous pouvez réécouter cette émission dans son intégralité sur l'application Couleur 3 et sur les sites de la RTS. Quant à nous, on se retrouve demain, 18h, pour un nouvel épisode.